C'est pas pour dire. Une émission de la compagnie La Lune Rousse, présentée par Charles Cécile. Au XXIe siècle, qu'est-ce qui pousse encore les gens à dire ou à écouter des contes, des poèmes, des épopées, des histoires de bonnes femmes? Quand les déesses s'appellent Nintendo et que Midas change votre peau, autant du jet lag, des Mastercard, de la com, de la pub, au XXIe siècle quoi. C'est pas pour dire, mais toutes ces histoires, à quoi ça sert? C'est pas pour dire, une enquête de Charles Cécile au pays des conteurs.
I have a dream.
Aujourd'hui, c'est l'Ascension et j'ai rendez-vous au paradis avec Marc Bulléon. Alors, rassurez-vous, au paradis, c'est plutôt un lieu-dit, un bistrot, qui, malheureusement d'ailleurs, a l'air d'être fermé, ce qui est un peu normal, un jour férié. Je suis devant la Loire, qui est magnifique, qui va suivre son cours pour rejoindre l'océan. Ça y est, je vois le bac de Couëron qui décolle du Pèlerin et qui va traverser. Mais jamais très très longtemps pour traverser cette Loire. Il y a un très fort courant, un peu de vent, mais le lieu est très beau, très dégagé. C'est super le service public, hein, le bac est gratuit. Alors bon, il y a beaucoup de circulation entre un côté et l'autre de la Loire. Voilà, j'aperçois Marc en pantalon rouge, qui lui est venu à pied, parce qu'on peut donc venir forcément à pied, passer le bac comme cela. Salut!
Bonjour Marc.
Bonjour Charles.
Voilà.
Ah, tu vois. Exactement. Un petit rayon de soleil au paradis.
Oui. Ce serait mieux si le bar était ouvert, mais on va faire sans.
On va faire sans. Marc Bulléon et moi, nous sommes réfugiés dans une voiture, puisque le paradis est définitivement fermé aujourd'hui. Marc, tu es conteur, toi?
Oui, ça c'est certain.
Il me semble bien. Dis-moi, tu as fait plusieurs métiers, je crois, en fait, avant d'être conteur.
Oui, j'ai fait plusieurs métiers, parfois plusieurs métiers en même temps, qui sont tous issus en fait de passions de l'enfance ou de l'adolescence. Donc il y a eu la musique, l'enseignement de la musique, la pratique de la musique, du piano essentiellement. L'ébénisterie, bon, ça c'est venu peut-être plus tardivement dans mon jeune âge adulte où voilà, je comprends maintenant pourquoi j'ai été attiré par l'ébénisterie, la menuiserie, la charpente. Je le comprends maintenant, et quand je dis maintenant, c'est vraiment ces jours-ci ou ces derniers mois où je suis en train de préparer un spectacle sur la tour de Babel, qui est la construction qui m'a fasciné en fait pendant toute mon enfance. Et certainement, là actuellement, je me dis qu'il y a sûrement quelque chose à voir entre cette envie de construire de menuiserie, ébénisterie, charpente, et cette fascination que j'avais quand même pour ce mythe autour de la construction.
Donc ébéniste et musicien. Puis tu as, je crois, des tendresses particulières pour l'Afrique et sa musique. Parlez-nous un petit peu de ça.
Oui, alors je ne sais pas si c'est une tendresse particulière. C'est, voilà, comme tous les gens à l'occasion de voyage. Je crois que j'ai été touché peut-être plus par les musiciens ou les musiciennes. Bon, africains, ça ne veut rien dire, c'est tellement grand. Mais enfin, disons, Mali, Burkina, les deux pays où je suis un petit peu allé, que par la musique elle-même, en fait. C'est plus l'attitude des musiciens par rapport à la musique qu'ils produisent que la musique elle-même. Au niveau de la musique elle-même, ce qui me touche beaucoup plus que le balafon, le goni ou les percussions. C'est vraiment, c'est la voix, quoi. Je trouve qu'il y a quand même des chanteurs, des voix extraordinaires là-bas.
Tu joues toi-même, je crois, hein. Tu t'es essayé, plus qu'essayé, au goni, me semble-t-il.
Oui, enfin, mais en même temps, sans prétention, j'en joue à la manière d'un Européen qui n'a pas essayé de copier les joueurs de l'Afrique de l'Ouest. C'est vrai que bon, toute ma formation musicale m'a permis, bon, de m'approprier un instrument comme ça à ma façon, c'est-à-dire, encore une fois, vraiment, j'en joue à l'européenne. Mais c'est un instrument que j'aime bien utiliser dans les contes, quand je raconte pour les enfants. Parce que c'est une sonorité très ronde, très paisible. C'est un instrument qui pèse rien, c'est on peut le tenir entre le pouce et l'index d'une seule main et continuer à parler de l'autre et à gesticuler si on a envie. Voilà, il est un peu fascinant et puis c'est un instrument, enfin celui que j'ai fait construire pour moi, donc qui est très percussif. C'est pas le cas de tous les goni. C'est un instrument qui rythmiquement peut vraiment.
Décris-le un petit peu pour ceux qui nous écoutent. C'est une caisse en bois.
C'est une grosse calebasse. Avec un manche, sur la calebasse une peau de chèvre en général, un manche, des cordes en fil de nylon. Bon, c'est fait avec les moyens du bord, hein, comme tout ce qui est fait dans ces pays très pauvres. Et d'une certaine façon, c'est cette approximation, par exemple, dans les cordes, parce qu'on pourrait utiliser des cordes de guitare en nylon ou je ne sais quoi, des cordes qui sont vraiment filées précisément. Et c'est toutes ces approximations qui créent cette sonorité si particulière et pour moi si chaleureuse, quoi.
J'ouvre un petit peu les fenêtres de la voiture parce que nous sommes devant la Loire en plein soleil. Ma foi, la température monte assez. Avec aussi le milieu des autistes, je crois que tu as beaucoup, beaucoup travaillé avec, dans ce milieu-là. Tu peux nous en parler ?
Oui, alors travailler, c'est pas le mot que j'utiliserais. Disons que là aussi, ce sont des rencontres. C'est. Voilà, quand j'ai créé le Festival Le Conte juste en face, là, au Pèlerin, en 2003, j'ai été amené à programmer Nathalie Le Boucher, donc une conteuse, danseuse de Katakali, hein, de cette danse de l'Inde du Sud, dans un lieu que je ne connaissais pas. Je connaissais ce qu'on appelait un CAT à l'époque, qu'on appelle maintenant un ESAT, qui est un centre équestre au Pèlerin, mais je ne connaissais pas ce lieu que j'appelle maintenant la petite maison en contrebas, qu'on appelle une SAESAT, une section adaptée d'un ESAT, et qui est réservée à des travailleurs handicapés qui n'ont pas une capacité de travail à plein temps. Donc la moitié de la semaine, ils sont là. Et j'ai rencontré donc quatre hommes, quatre femmes dans ce lieu-là, tous autistes, et qui et ça a été vraiment une rencontre, quoi. C'est pas j'ai eu envie de travailler avec eux ou on m'a demandé de travailler avec eux. Moi, je n'avais aucune formation dans le soin ou dans quoi que ce soit d'ailleurs, enfin dans quoi que ce soit, il y a un rapport à l'autisme. Et non, ça a été une vraie rencontre, comme si quelque chose chez eux résonnait profondément en moi, et comme si quelque chose chez moi peut-être a résonné assez chez profondément eux chez eux. Et à partir de cette rencontre, on a eu du plaisir à être ensemble, je suis venu raconter souvent, et puis à un moment, voilà, il y a l'une de ces femmes qui a émis l'idée que peut-être elle pourrait aussi raconter, puis tout s'est mis en branle comme ça, toujours sous cette forme-là, c'est-à-dire des propositions venant d'eux. C'est plus un compagnonnage que un conteur qui va travailler avec des personnes autistes. C'est vraiment une route tracée ensemble, côte à côte.
Et en prenant le temps, j'imagine, quoi. Enfin, ça s'est déroulé sur oui, plusieurs années.
Ça fait 10 ans que ça dure. Donc 2003-2013, ça fait exactement 10 ans. Et l'histoire n'est pas terminée, on continue à... Alors le groupe a un tout petit peu changé là, depuis 6 mois, il y a une des femmes que la vie a emmenée ailleurs, dans un autre lieu. Mais on continue donc à tourner le spectacle qu'on a...
Oui, donc le spectacle qui est issu de ce compagnonnage,
voilà.
Et qui s'appelle...
Alors le spectacle s'appelle Duo, au pluriel, Parole singulière. Voilà, okay. C'est une succession en fait de duos, soit de l'une de ces personnes adultes autistes et moi, soit de l'une de ces personnes adultes autistes et Mauve Leroux, qui est une traductrice en langue des signes, mais qui fait beaucoup plus que traduire. Elle est vraiment partie intégrante du spectacle. Et puis tous ces duos sont entrecoupés de moments collectifs d'histoire ou de musique collective.
La géométrie des silences, votre spectacle, que d'ailleurs j'aime beaucoup, j'ai eu l'occasion de le voir, est issu aussi de ce compagnonnage-là ?
Alors il s'est passé quelque chose d'assez... C'est étonnant pour moi, enfin, c'est-à-dire que on a créé ensemble un premier spectacle en 2007, je crois, de mémoire. Et puis, ça a été une expérience tellement forte qu'à un moment, moi, je me suis dit, j'aimerais restituer quelque chose à ces personnes, leur rendre quelque chose qui, en échange un peu de tout ce qu'ils m'ont apporté. Et donc, je me suis dit que j'allais faire un petit livre hommage pour ces 8 personnes. Et à cette occasion-là, je suis allé collecter dans les familles. Donc, j'ai fait un collectage de paroles contemporaines, comme font pas mal de conteurs maintenant. Et puis, j'ai mis en place des ateliers d'écriture orale, puisque ces personnes n'écrivent pas ou très peu. Et à partir de tout ça, j'ai écrit donc ce petit livre en hommage. Voilà. Ce qui était très touchant dans les témoignages des familles, c'était aussi toutes les photos que les mamans allaient me chercher. Alors quand je dis les mamans, attention, hein, eux, ce sont des adultes. Hein, les personnes, les conteurs, Sésame Autisme 44 sont des adultes. Mais que leur mère allait chercher au bout de 5 minutes pour me montrer comme ils étaient beaux quand ils étaient tout petits, quand ils avaient 1 an, 2 ans. Parce qu'à cette époque-là, on ne voit pas encore la trace du handicap sur les visages. Et puis j'ai eu des témoignages absolument extraordinaires. Et une fois le livre écrit, il me restait vraiment de la matière en quantité. Et de la matière d'une beauté incroyable. Et je me suis dit, ben voilà, moi je suis conteur, mon rôle c'est de raconter des histoires, mais je vais raconter la vie de ces gens-là. D'autant plus que le spectacle qu'on fait en commun, duo paroles singulières, on peut le tourner maximum 4 ou 5 fois par an. Du fait de la lourdeur de leur handicap et du fait de leur situation aussi de travailleurs handicapés sur des postes actuellement qui relèvent de l'espace vert ou de la cuisine ou des choses comme ça. Ils doivent assurer leurs fonctions. Il y a des ESAT en France artistiques, donc on pourrait imaginer un jour que leur métier ne soit plus d'être jardinier mais d'être conteur par exemple ou régisseur ou autre. En l'état actuel des choses, voilà, on peut jouer 3 ou 4 fois dans un rayon de 100 km, puis une fois dans l'année, on peut aller vraiment sur un grand festival loin, mais c'est très lourd à organiser. Et donc, c'était une façon pour moi de créer un premier puis un deuxième spectacle solo autour de la vie de ces personnes autistes. C'est une façon pour moi de les faire connaître, en fait, de me promener à travers la France et ailleurs avec eux, de les faire rencontrer aux gens, comme souvent j'emploie cet exemple-là, si on va dans une soirée et quand on est seul parce que son compagnon ou sa compagne n'a pas pu venir, puis on rencontre des gens qui nous fascinent comme ça, la première chose qu'on dit en rentrant, qu'on dit à son compagnon ou à sa compagne, c'est « faut vraiment que tu les rencontres ». Voilà, ben là c'est vraiment ça que j'ai envie de dire aux gens avec ces spectacles, c'est faut vraiment que vous les rencontriez. Ils valent vraiment ce coup.
Et les gens, en général, donc, comment dirais-je ? Je ne sais pas comment dire. Comment perçoivent-ils cette rencontre ? Parce que ce sont des personnes qui souvent sont dans des réseaux un petit peu fermés. Voilà, et donc, c'est une rencontre qui est vraiment nouvelle pour le public.
Oui, voilà. Ça dépend de quelle rencontre tu parles. Si on parle de la rencontre de eux faisant le spectacle avec les spectateurs ou de la rencontre de moi jouant.
Des deux côtés. Des deux côtés.
Alors, quand ce sont eux qui sont sur scène, enfin nous qui sommes sur scène, tous les 10 donc, la rencontre, elle se fait par, d'une part par l'étonnement, je pense. Mais pas seulement, et ça c'était un souhait depuis le début, c'est-à-dire que l'émotion, elle soit créée par la teneur artistique du contenu, pas uniquement par l'émotion de voir quelqu'un handicapé en train de surmonter son handicap. Donc il y a vraiment une proposition dans le contenu qui est très riche, au point, parce qu'on a beaucoup cherché ensemble aussi des façons de raconter des histoires. Comment on raconte une histoire quand on n'ose pas parler devant une personne ? Comment on raconte une histoire quand on n'a pas la mémoire de ce qu'on vient de dire 2 minutes avant? Comment on raconte une histoire quand on n'a pas la même logique que les gens qui vous écoutent? Il y a une logique, il y a un système logique, bien sûr, mais qui n'est pas fondé sur les mêmes choses que pour ceux qu'on dit normaux, qui ne sont malgré tout que la majorité, c'est ça qui fait leur normalité. Et donc, il y a vraiment la rencontre du public, elle se fait par cette forme. Et quand je dis du public, y compris des conteurs professionnels qui viennent souvent voir ce spectacle, par une forme d'étonnement dans la richesse de propositions et du contenu. Et puis après, elle se fait aussi parce que ce sont des gens qui, sur scène, dégagent une telle énergie, un tel bonheur que c'est impossible de ne pas y être sensible. Enfin, et du coup, on ne voit plus le handicap. On ne voit que cette énergie folle d'Isabelle qui se met à sauter sur scène. Mais vraiment, quand on dit sauter de joie, voilà, là, elle saute de joie, vraiment. Et après, comme moi, je raconte tout seul, donc dans un peu partout, dans des endroits où les gens n'ont pas eu l'occasion de les rencontrer, eux. Très souvent, ce sont deux spectacles assez émouvants, donc très souvent les gens, il y a beaucoup de silence à la fin du spectacle, ça prend un petit peu de temps, puis après les gens restent vraiment longtemps, c'est-à-dire qu'on peut parler pendant une heure et demie, 2 heures, et ce qui revient le plus souvent, c'est on a l'impression de les connaître, voilà, ou on aimerait les connaître un peu plus.
Et pour eux, donc, si tu parles de cette jeune femme là qui saute de joie, enfin, j'imagine que c'est un superbe outil de communication qui s'ouvre à eux, en fait.
Oui, sûrement, mais je suis très prudent.
C'est pas trop facile de le savoir.
D'une part, c'est pas forcément facile de le savoir. Enfin, si, il y a les éducatrices, les familles, tout ça, évidemment, témoignent de changements, tout ça. Mais j'ai pas trop envie d'aborder ce sujet-là parce que depuis le début, donc depuis 10 ans, je me suis toujours beaucoup méfié de ce qu'on appelle les évaluations, d'essayer de savoir si ce projet qu'on menait ensemble les faisait avancer par rapport à leur handicap. Ça ne m'intéresse pas tellement, finalement. Je me rends compte que, bien sûr, si ça les rendait...
Pourtant, c'est tentant. Tu vois, j'ai vraiment envie de poser la question,
oui,
par exemple.
Bien sûr que si ça les rendait malheureux et souffrants, on arrêterait tout de suite. Donc, d'une certaine façon, il y a une réponse. Mais ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est vraiment le plaisir d'être ensemble, de faire des choses ensemble. Après, tant mieux, bien sûr. Bien sûr qu'ils se sont ouverts à plein de choses grâce à ça. Mais comme n'importe qui d'un seul coup se retrouverait qui n'est jamais monté sur une scène, n'a jamais parlé en public, puis commence à le faire, puis commence à voyager alors qu'il n'a jamais voyagé avant pour jouer sur scène. Bien sûr que ça ouvre, mais comme ça ouvrirait pour n'importe qui.
Thank you.
parce que le conte, lui, est souvent utilisé, entre guillemets, pour créer du lien social, le conte en milieu hospitalier, le conte dans la relation aux gens qui sont emprisonnés, incarcérés, le conte, voilà. Le conte est souvent utilisé, finalement, un peu en dehors de sa... ou pas tout à fait exactement dans sa dimension artistique initiale, quoi. Qu'est-ce que tu penses de toutes ces utilisations, entre guillemets, du conte un peu partout ?
Ah ben, je pense qu'on aurait tort de se priver quand même, hein. C'est un outil extraordinaire. Alors c'est à la fois, pour moi, une discipline artistique. Et dans ce sens-là, bon, bah, heureusement que les conteurs creusent leur propre chemin, leur propre sillon artistique. Mais c'est aussi un outil qui peut, oui, qui permet beaucoup de choses parce que c'est un outil extrêmement simple. C'est un outil qui nécessite pas de
grosse mise en œuvre.
Non, ni de grosse mise en œuvre, ni de gros savoir au départ. C'est-à-dire, si on prend par exemple la musique instrumentale, ça nécessite un minimum de savoir au départ.
Tu dis bien au départ, parce que je crois que les choses se corsent assez vite pour celui qui veut.
Oui, 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 non, mais bien sûr. Mais, mais là, je ne parle pas du travail du conteur professionnel, qui, alors là, on est bien d'accord que c'est pas que ça paraît simple au départ, et après, c'est des 10, 20, 30 ans, enfin, c'est une vie qui est consacrée à. Non, je faisais bien le distinguo entre la démarche artistique, qui, elle, comme toutes les démarches artistiques, peut prendre toute une vie, hein, et je ne vois pas trop comment ça pourrait se passer autrement, puisqu'il n'y a pas de ligne d'arrivée, ce n'est qu'un cheminement de chacun à la lumière de ce qu'il est à l'intérieur de lui, ce qui n'est pas toujours très lumineux d'ailleurs, mais ce qui peut l'être parfois. Donc ça, non, là-dessus, on est d'accord. C'est pas, et là, je me méfierais beaucoup de dire que le conte, c'est quelque chose de simple. Je pense que... Mais pour répondre à la question, la première question, non, c'est bien. Enfin, moi, je trouve ça très important qu'on utilise le conte en milieu hospitalier, en prison, mais comme on utilise le théâtre, comme on utilise la danse, comme on utilise la musique, ce sont des possibilités d'ouverture et de réflexion aussi, quand même. C'est-à-dire que on voit bien quand même dans les milieux, si je prends une de mes dernières interventions de ce type-là, c'était dans un foyer qui accueillait des adolescentes, même des mères adolescentes, quoi, avec leurs enfants. Bon, ben, on voit bien que certaines histoires amènent quand même de la réflexion, amènent à peut-être à envisager sa propre histoire de vie sous un angle différent. Non, c'est évidemment important. Mais c'est pas la démarche artistique, ça. Après, on peut éventuellement utiliser cette expérience-là pour la transcender et puis en faire un objet artistique. Un peu ce que j'ai essayé de faire, moi, avec les deux spectacles en solo. Mais c'est deux choses, pour moi, c'est deux choses séparées.
Il y avait un sculpteur. Un très vieux sculpteur. Toute sa vie, il avait peint, dessiné, façonné, sculpté des oiseaux. Uniquement des oiseaux. Rien que des oiseaux. Toute sa vie, ces oiseaux, il avait rêvé de les voir s'envoler. Toute sa vie, lui-même avait rêvé de voler. Un soir, dans son atelier, les oiseaux ont tenu conférence. il y avait là un vieux grèbe, un oiseau des bords de mer. Il était là depuis toujours, depuis les commencements, empoussiéré, immobile, posé sur un coin d'étagère. Il a pris la parole, il a dit: le sculpteur va mal, il vieillit. Aussitôt, un oiseau perché tout en haut des étagères a dit: c'est vrai, le sculpteur est étrange depuis quelque temps. Il fait pour défaire aussitôt. Il efface le lendemain ce qu'il a tracé la veille. Plusieurs fois déjà, il a essayé de m'arracher les ailes pour m'en faire de nouvelles. Ah, je me méfie maintenant. Je me tiens à l'écart. Je veux rester tel que je suis. Je veux me reconnaître tous les matins quand je me lève. Troisième a dit: moi, il m'a fait d'emblée avec des yeux qui se contredisent. Je suis comme son ombre. Je devine en lui la vérité et le mensonge. Je devine en lui le plein et le vide. Et curieusement, le vide le remplit peu à peu. Je ne sais pas pourquoi. Alors le phénix a parlé. C'était le tout premier oiseau que le sculpteur avait façonné. Ah, celui-là, jamais il n'avait accepté de le vendre. Le phénix était aussi vieux que le vieux grèbe. Seulement, lui avait conservé l'éclat de la jeunesse. Son plumage était flamboyant. Le phénix s'est avancé et il a dit: le sculpteur aimerait bien posséder mes pouvoirs. Il aimerait bien brûler et renaître de ses cendres. Mais pour cela, il faut accepter la mort. La mort. La mort. Le vieux grèbe a dit: cessez vos bavardages inutiles. Le sculpteur va mal, tout simplement parce que il aimerait nous voir voler. C'était là son plus vieux désir, c'était là son rêve, parce que lui-même ne sait pas voler. Seulement nous sommes trop lourds, nous le savons. Lui ne le sait pas. Il continue à nous fabriquer dans la terre, dans la pierre, dans le fer. Jamais nous ne volerons. Jamais. Jamais nous, les oiseaux, ne volerons. Mais lui, lui le sculpteur dont l'âme est si légère. Cette nuit-là, les oiseaux ont parlé jusqu'à l'aube. À l'aube, le sculpteur est allé dans son atelier. Il a contemplé ses oiseaux et il a compris que jamais, jamais, absolument jamais, ces oiseaux ne voleraient. Une immense fatigue a pesé sur ses épaules. Il s'est installé dans son fauteuil et il s'est endormi. Sur les étagères, les oiseaux ont frémi. Ils ont soulevé leurs ailes de pierre, de fer et de terre. Et lourdement, péniblement, ils se sont envolés. Ils sont allés des étagères au sculpteur, du sculpteur aux étagères. Vol lourd, pesant, ailes de pierre, de fer et de terre. Ils ont volé des étagères au sculpteur, du sculpteur aux étagères. Ils sont allés, ils sont venus, pépiment. Ils ont fouillé dans les piles d'objets emmagasinés depuis des années. Et ils sont allés des étagères au sculpteur, du sculpteur aux étagères. Courageux ces oiseaux avec leurs ailes de pierre, de terre et de fer. Vol de pierre, de terre et de fer. Des étagères aux sculpteurs, du sculpteur aux étagères. Des étagères aux sculpteurs, du sculpteur aux étagères. Des étagères aux sculpteurs, du sculpteur aux étagères. Jusqu'à être exténué. Se sont posés sur les étagères. Lorsque le sculpteur s'est réveillé, rien n'avait changé dans son atelier. Tout était identique à la veille. Mais lui, le sculpteur, à la place de ses deux bras, il avait deux ailes. Il a souri. Il s'est levé. Il est sorti. C'était une matinée d'hiver ensoleillée. Il s'est planté face au soleil. Et puis tout doucement, il a remué ses ailes et il s'est envolé. Dans l'atelier, derrière les vitres de l'atelier, les oiseaux de terre, de pierre et de fer ont regardé le sculpteur prendre son envol. Ils l'ont suivi des yeux jusqu'à ce qu'il disparaisse à l'horizon.
Donc le conte, discipline artistique à part entière. Tu fais partie d'une... Je vais me permettre de te dire tu, je crois que j'ai dû d'ailleurs le faire déjà. Tu fais partie d'une association professionnelle de conteurs. Tu peux nous en dire un petit mot, de dire à quoi ça sert, par exemple.
Alors, l'association professionnelle des artistes conteurs, l'APAC, donc, c'est une association nationale qui s'est créé il y a 3 ans, je crois, à peu près, 3 ou 4 ans, je ne sais pas exactement. Beaucoup à partir de l'idée qu'on avait une discipline artistique que nous, conteurs, n'avions pas de moyens, on ne pouvait pas la défendre, cette discipline. On parlait toujours en chacun en son nom, par singulier, comme ça, donc on n'était pas représentatif devant les collectivités, devant le ministère. On n'avait pas de poids par rapport aux programmateurs qui, eux, s'étaient structurés de leur côté. Et c'est vrai que du coup, on tentait de se structurer de leur côté. Mais c'est vrai que du coup, on s'est réunis, on était un certain nombre à se réunir et à se dire, est-ce qu'on n'a pas vocation à défendre notre discipline en se regroupant, bien que ce soit, un métier très souvent solitaire, mais justement en se regroupant, et puis en essayant de voir comment on peut mettre en valeur la qualité de ce qu'on propose. Et quand je dis ça, ce n'est pas anodin du tout, c'est-à-dire qu'il y avait bien sûr le fait de se regrouper pour peser face aux institutions, etc. Mais il y a aussi la démarche de dire, si on se regroupe, on n'a pas envie de se regrouper uniquement autour de la défense de notre corporation comme un syndicat. On a aussi envie que reste présente l'idée justement de la recherche dans notre discipline, de la dimension artistique. Alors la recherche, par exemple, il y a des colloques que les uns et les autres organisent autour de thèmes précis, comme la femme dans le conte, il y a eu d'autres choses. Après, au niveau de la démarche artistique collective, ça peine un petit peu. Puis on voit bien que ce n'est pas si simple que ça reste un métier très solitaire, que les gens n'ont pas forcément l'habitude de travailler à plusieurs, vraiment en grand groupe, à 2, 3, oui, bien sûr. Mais justement, ça nous amène à nous questionner. Moi, je trouve ça très riche, cette Assemblée nationale.
Voilà. Oui, tu en fais partie, je crois, depuis le début de cette histoire-là.
Oui, même si là, j'ai pris un petit peu de distance, parce que la vie a fait que c'est difficile de tout faire, mais oui, je suis ça d'assez près. Oui.
Alors, à propos de tout faire ou de s'engager sur des choses, je crois que tu es très engagé justement sur les pays de la Loire pour le développement, la reconnaissance du conte, des arts du récit comme discipline artistique à part entière. Tu as été à l'initiative avec quelques autres d'un festival aussi, d'un festival de contes. Et c'était malgré tout le premier, je crois bien, sur l'ensemble de l'agglomération nantaise.
Je crois, oui, à ma connaissance, oui. Là aussi, 9 ans de durée.
Pas mal.
Ça aurait pu continuer, on ne s'est pas arrêté ni pour des raisons de mauvaise entente au sein de l'équipe, ni pour des raisons financière, ni de mauvaise fréquentation. On s'est arrêté un peu, au contraire, sur le sommet de la vague. Le sommet, je ne sais pas, il aurait peut-être duré, d'ailleurs, j'en sais rien. Bon, c'est un luxe d'arrêter comme ça, j'en ai bien conscience, mais en même temps, moi, je crois vraiment que les histoires ont un début et une fin, et qu'il ne faut pas essayer de forcer les choses. Bon, là, c'est vrai que c'est un réseau d'amis essentiellement au départ, tous des gens qui ont fait partie de luttes diverses et variées, les plus anciennes remontant au projet de centrale nucléaire au Pèlerin, justement. Donc, c'est des gens qui ne sont... Quand on a commencé, on avait tous entre 46 et 56 ans. Maintenant, 10 ans plus tard, forcément, ça... il y a eu de la fatigue, vraiment, des envies de se reposer. Ce qu'on n'a pas réussi à faire, et ça, c'est vraiment un regret et une maladresse, sûrement, c'est d'arriver à fédérer des gens plus jeunes, justement, autour de ce projet-là.
Alors, il y en a... pu prendre un peu le relais à un moment donné, quoi, c'est voilà. Ça.
Oui, c'est ça qui s'est passé au niveau des bénévoles. Mais c'est aussi le reflet quand même de ce qu'est le conte, je trouve. C'est-à-dire qu'on voit bien que bon, on a des jeunes dans les scolaires, bon, mais ce qui est un public un peu captif quand même. Dans les festivals, les spectacles pour enfants, ça marche. Après, les spectacles pour adultes, on voit bien que sur un festival comme ça, ça marchait quand même, puisqu'on est arrivé à, sur 5 jours de festival, il y avait 2700, 2800 spectateurs quand même. Donc, il y a vraiment un public potentiel fort. Et par contre, on voit bien que ce public, il est composé à 80% de gens qui ont, on va dire, plus de 40 ans, quoi. Donc, ça, moi, ça me questionne quand même. Et je trouve qu'on n'a pas réussi là à fédérer justement des gens plus jeunes qui auraient pu donner envie à des gens de, on va dire, 18-30 ans d'aller écouter. Il y en a bien sûr, hein, mais c'est quand même une petite minorité.
Tu fais des choses également, je crois, avec Cosmopolis à Nantes. Qu'est-ce qui se passe tous les ans là, avec Cosmopolis? Tu es un conseiller artistique, hein?
Oui, alors ça s'est fait une période où je suis intervenu. Enfin, j'ai raconté plusieurs fois à Cosmopolis dans le cadre de projets beaucoup avec l'Afrique justement. Et puis un jour, comme il y avait le festival qui était quand même à caractère international, c'est-à-dire que l'idée du festival qui s'appelait Paroles de partout, c'était quand même de faire connaître essentiellement des gens venus d'autres cultures. Alors étrangers certes, mais aussi pouvaient être français et avec une culture ouvrière, par exemple, je pense à Nicolas Bonneau, ou une culture paysanne, je pense à Michel Corignan, ou des gens comme ça. Mais enfin, c'était essentiellement axé sur l'étranger. Cosmopolis à Nantes, c'est un lieu qui est dédié à la culture internationale. Donc forcément, ça les a intéressés. Et ils m'ont proposé, à cette époque-là, donc de programmer 3 soirs successifs, sur une période de 3 soirs consécutifs, des conteurs venu de l'étranger ou pardon
un petit peu de grippe dans l'air de... Non, ça y est, c'est passé oui.
Ou des conteurs français mais ayant séjourné ou travaillé longtemps autour d'un domaine étranger. Et ça continue, alors c'est assez magique, ça reste comme un petit îlot comme ça qui reste possible, j'espère que ça va le rester longtemps.
Il y avait une rivière, une vieille rivière. Une rivière qui était toujours allée droit devant elle. Une rivière qui avait dévalé les montagnes, qui avait traversé les plaines et les vallées, qui avait traversé les villes et les villages, une rivière qui était toujours allée de l'avant. Une rivière qui n'avait jamais pris le temps de s'arrêter pour regarder derrière. Un jour, elle est arrivée devant un désert. Elle a fait comme elle avait toujours fait. Face à ce désert, elle n'a pas hésité. Elle a continué droit devant elle. Sans jamais s'arrêter. Seulement au bout d'un moment, elle s'est aperçue qu'elle n'avait presque plus d'eau. Elle s'est dit que toutes les choses ici-bas avaient un début et une fin et que l'heure de sa mort était arrivée. Puis elle s'est rebellée, elle n'avait pas envie de mourir là, maintenant. Alors elle a ramassé le peu d'eau qui lui restait, et puis elle est retournée s'installer à l'entrée du désert. Et là, elle a attendu. Le sable du désert lui a dit « Mais que fais-tu là, toi ?» Elle a dit « Mais je veux traverser !» Le sable du désert lui a dit « Mais tu sais, il n'y a que le vent qui permette de traverser les déserts. Appelle le vent, fais-lui confiance !» Elle a dit « Mais comment pourrais-je déjà te faire confiance à toi ? Dès que j'avance, tu me dévores !» Le sable du désert lui a dit « Est-ce que tu as vraiment le choix ?» Appelle le vent, fais confiance au vent. La rivière a dit « Mais qu'est-ce qui me prouve que de l'autre côté du désert, je redeviendrai rivière ?» Le sable lui a dit « Ne t'inquiète pas, de l'autre côté du désert, il y a une montagne très haute. Si haute que le vent chargé de toi ne pourra la franchir tout à fait. À son sommet, il sera obligé de te recracher en pluie, et de pluie, tu redeviendras rivière. » La rivière a réfléchi, puis elle a dit « Mais qu'est-ce qui me prouve que je serai exactement identique à celle que je suis aujourd'hui ?» Le sable a ri. Il lui a dit, on voit bien que tu es une rivière qui a toujours dévalé les montagnes et les plaines, qui a traversé les villes et les villages. Une rivière qui est toujours allée de l'avant, sans jamais prendre le temps de t'arrêter pour regarder derrière. Sinon, tu saurais que déjà plusieurs fois, le vent t'a fait traverser des déserts, et que de toi, il ne reste que la part essentielle. Appelle le vent! La rivière a appelé le vent. Le vent l'a chargé sur son dos et il a traversé le désert. De l'autre côté du désert, il y avait bien une montagne très haute. La rivière a franchi la montagne, mais arrivée à son sommet, elle était trop lourde. Et sur l'autre versant, elle a recraché. Le vent a franchi la montagne et il a recraché la rivière qui est retombée en pluie. De pluie, elle est redevenue rivière et elle a continué son cours. On raconte que depuis, parce qu'une fois, une seule fois, elle avait osé hésiter, osé douter, et bien depuis, elle n'a plus jamais eu peur de traverser les déserts.
Alors, une petite question dans ce monde moderne. C'est une question que je pose pratiquement à tous les conteurs donc, de cette émission, qui participent à cette émission. Le poids de la parole dans ce monde moderne, la responsabilité des mots, de la parole, dans ce monde où tout va à toute allure, très vite, où les opérations financières circulent d'un ordinateur à l'autre sans que personne ne puisse en dire un mot. Qu'est-ce que tu ressens, toi, de la peut-être aussi de la responsabilité des conteurs hein, par rapport à ça, mais d'une façon un peu plus globale, oui, la parole dans ce monde moderne.
Alors, j'ai deux réponses à ça. La première, c'est qui pour moi est la deuxième, mais je vais commencer par celle-là parce qu'elle fait référence un peu à ce que j'ai dit avant. Parce qu'après le festival, on a, avec le même groupe de gens, on n'a pas du tout arrêté l'association. Hein. On a continué à travailler sur l'idée d'une résidence de conteur sur Saint-Jean-de-Boiseau. Donc là, on vient de finir la deuxième résidence. La conteuse en résidence qui faisait le collectage s'appelait Hélène Palardi. Elle s'appelle toujours Hélène Palardi.
Ce sont des résistances qui laissent le conteur vivant.
Oui, normalement, oui. Et donc, pendant 4 fois 15 jours, elle a séjourné sur la commune, collecté les paroles des habitants autour d'un thème qu'elle avait proposé, que je trouvais vraiment très fort, qui était les petits courages du quotidien. Voilà, qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas forcément des héros, mais quand même qu'on peut se reconnaître parfois des petits courages, des petites choses comme ça. Et ça a généré énormément de paroles, vraiment beaucoup. De toutes ces paroles-là, elle a fait un spectacle qui s'appelle « Sur les rives de Jasper ». Super spectacle, je trouve, vraiment. Puis en plus, elle a beaucoup travaillé, hein, vraiment beaucoup. Et ce spectacle, sans qu'on s'en rende compte, il est entièrement nourri de témoignages des gens autour des petits courages. Et en écoutant sa restitution, je me disais, voilà une parole contemporaine qui sera peut-être un conte traditionnel de demain. Quand je dis demain, c'est dans 100 ans, dans 300 ans, j'en sais rien. Tellement, on voit bien que les anecdotes contemporaines, en tant qu'anecdote, elles vont peut-être disparaître, mais si elles sont insérées dans une matière comme ça, qui a une forme plus aboutie, qui peut ressembler à une histoire, à un conte, etc., elles risquent de perdurer. Elles risquent de peut-être qu'un conteur, un jour, va entendre Hélène et va se dire « elle est bien, son histoire », sans savoir du tout d'où elle vient, et se dire « tiens, je vais la raconter ». Donc forcément, il va se l'approprier, la déformer, mais il en restera l'ossature. Puis un autre conteur entendra peut-être ce deuxième conteur, et peut-être qu'un jour, cette histoire contemporaine sera devenu un conte traditionnel. Donc ça, c'est la première réponse à ta question sur, pour moi, l'importance de la parole d'aujourd'hui collectée et retransmise. L'autre réponse, qui est beaucoup plus personnelle, si tu veux, c'est... d'une part, je pense qu'il y a des choses qu'on doit continuer à énoncer, que certaines de ces choses sont dites dans les contes ou dans les mythes hein, ou dans les épopées. Je repense à Chaka, une épopée que je raconte, bon, qui est très dure, mais qui pour moi est essentielle à transmettre quand même, pour mettre en garde, pour continuer à rester conscient qu'une dictature, ça peut arriver très vite. Enfin voilà, ce sont des paroles importantes. Les contes, dans les contes aussi, il y a plein de paroles importantes, sinon on ne les dirait pas. Hein, et puis sinon, ils n'auraient pas à traverser comme ça des millénaires. Voilà, donc ça c'est l'autre chose. Puis la troisième chose, alors là qui est carrément, qui relève de l'ordre de l'intimité du conteur, c'est s'il énonce ces choses en public, c'est qu'il doit bien avoir besoin de les énoncer en public.
Oui, il faut que ça sorte. Oui, c'est formidable d'ailleurs de voir les... Je ne sais pas si le mot est correct, mais l'universalité de certains contes hein, qu'on retrouve aussi bien, toi qui as été pas mal en Afrique, de retrouver des choses en Afrique, en France, en Suisse, un peu plus haut, et en Italie, qui se ressemblent, qui sont construites un peu sur la même ossature, la même envie de dire, quoi. Hein.
Ce qui change, c'est notre confrontation en fonction de la zone géographique où on vit, notre confrontation à l'environnement, c'est-à-dire l'environnement, le temps, le climat, etc., d'une part, aux coutumes, d'autre part, mais ce qui ne change pas quand même, c'est qu'un homme reste un homme, une femme reste une femme, les relations entre un homme et une femme, ou entre deux hommes, entre deux femmes, sont toujours... C'est le début du groupe, quoi. Donc forcément, c'est pas très étonnant, puisque
c'est surprenant au départ, mais après mûre réflexion, oui. C'est pas si étonnant que ça.
Sur le fond, on est tous faits de la même chair.
L'oralité et le livre, le rapport au livre, à la lecture, à la préservation en fait, des histoires par le biais du livre, qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu considères que le conte, il peut vivre sa vie tout seul, comme ça, de la bouche de quelqu'un à l'oreille de l'autre? Ou comment tu perçois, toi, en tant que... conteur professionnel, si on peut un peu, voilà, le rapport au livre, quand on est conteur.
Alors, ça m'amène à terminer, d'ailleurs, ce que je n'ai pas terminé tout à l'heure, de dire, c'est sur l'oralité. Je ne suis pas inquiet parce que, justement, je trouve qu'en France, la tradition orale, elle reprend énormément du fait du nombre de conteurs et du nombre de personnes qui entendent des histoires. Cela dit, on a été bien content de trouver les livres à une période, et encore maintenant, hein, tous les livres d'ethnologues, les livres... voilà, donc non, moi je crois que c'est essentiel, il faut garder ces traces-là. Bon, après on peut être... On sait bien que Perrault, voilà, tout ça, ça n'a pas facilité l'accès aux versions... originelle des histoires, on va dire. Ça reste un instantané pris par quelqu'un sur une histoire, mais un livre, enfin, une histoire écrite dans un livre ne rendra jamais la diversité du conte lui-même. Après, c'est justement le travail du conteur d'aller chercher toutes les versions, enfin, différentes versions, puis de trouver son chemin à lui là-dedans. Mais après, il suffit de faire la démarche intellectuelle, de savoir que c'est pas le livre qui a fait exister l'histoire. L'histoire, elle existait bien avant. Donc, une fois qu'on a compris ça et qu'on l'a intégré, on peut faire vivre l'histoire autrement que dans la façon dont on la trouve écrite, quoi. Enfin, je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais l'histoire, c'est sûr, elle existait bien avant que le livre existe, enfin que ce livre-là existe.
Des choses plutôt qui te paraissent intéressantes et que bon alors qu'on n'a pas abordé mais que tu aurais envie de dire toi par rapport à la discipline, au conte, un souhait à formuler.
Alors je peux d'une part quand même moi je suis quasiment autodidacte à une exception près, et qui n'est pas la moindre, c'est que j'ai travaillé 2 ans donc à Vendôme avec Bruno de la salle, et qu'en 2 ans, vraiment, je ne sais pas, je lui ai dit déjà, mais voilà, s'il écoute, je lui redis, quand il m'a vraiment apporté une chose essentielle, c'est l'exigence. C'est vraiment de penser que non, c'est pas une chose facile, que non, c'est pas acquis. En même temps, ça veut pas dire travailler dans la souffrance ou la douleur, hein. On travaille dans, plutôt dans la joie et la bonne humeur. Mais d'avoir cette exigence-là, d'aller au fond, vraiment au fond des histoires, le plus possible. Bon, je dis pas que c'est toujours réussi, mais le plus possible, et que c'est ça qui pouvait faire justement que cette discipline deviennent quelque chose d'aussi fort que les autres disciplines artistiques. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que j'ai entendu dire parfois qu'il y avait, maintenant trop de conteurs. Voilà, qu'il y avait trop de gens qui... Moi, je trouve pas. Moi, j'ai toujours pensé que le foisonnement, c'était une richesse extraordinaire et que c'était bien qu'il y ait plein de gens qui aient envie de faire ce métier-là. Bon, après, il y a des gens qui réussissent plus ou moins, il y a des gens qui vont plus ou moins au fond des choses, il y a des gens qu'on entend plus ou moins parce que c'est pas facile aussi de faire savoir qu'on raconte. Mais ce qui est sûr, c'est que moi, je trouve ça génial qu'il y ait plein de gens à l'heure actuelle, avec plein de gens qui ont envie de raconter.
Tu transmets, toi, même par rapport à des jeunes conteurs, est-ce que tu t'es engagé dans une démarche de formation vis-à-vis de conteurs ?
Alors, de formation, oui, mais plutôt, enfin, plutôt ponctuellement. C'est-à-dire, je ne donne pas de formation long cours. C'est pas trop ma démarche pour le moment.
Tu peux proposer quelques stages par an.
Voilà, alors il y a des stages. Et puis aussi, ce que je fais de plus en plus quand même, c'est le regard extérieur sur des propositions de spectacles d'autres conteurs, quoi. Voilà, et ça, j'aime beaucoup faire ça. C'est-à-dire, j'aime beaucoup aller chercher, pressentir ce que cherche un conteur ou une conteuse, et puis de l'aider à aller extirper ça chez elle. C'est-à-dire pas du tout de donner moi mon image du conte, hein, mais d'aller, de l'aider, d'essayer de lui ouvrir des portes ou de lui donner des pistes.
Guillonner voilà, un peu sa propre recherche. Quoi,
oui. Hein. Ça, j'aime beau. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup faire.
Ok, Marc. Eh bien, voilà l'interview spéciale voiture devant les bords de Loire avec Paradis fermé. va bientôt prendre fin. Merci beaucoup et puis à très bientôt.
Merci. Au revoir.
Et voilà, c'est l'heure de nous quitter avec Marc. Nous retournons au bac, dans le vent, devant cette belle Loire magnifique. I have a dream. A dream.